Cristiano Ronaldo face à Mohamed Salah, Zinedine Zidane opposé à Jurgen Klopp. La finale de la Ligue des Champions ne va pas manquer de piquant samedi soir à Kiev. Le Real Madrid va défier Liverpool. Ce sera la revanche de la finale 1981. Une finale qui avait souri aux Anglais. Décryptage en deuxième partie de ce Cap Sport. Avant d'évoquer ce grand duel de football, on va parler d'athlétisme. Les championnats jurassiens et neuchâtelois simples se tiennent ce samedi à Colombiers. Des moins de 16 ans aux élites, près de 200 athlètes seront lisses pour la grande fête de l'athlétisme de l'Arc Jurassien. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport. On enfile donc nos chaussures à pointe pour lancer ce dernier opus du mois de mai et on les troquera pour des chaussures à crampons à la mi-temps. Mathieu Schaffner, ça va donc bouger ce samedi à Colombiers avec ses championnats jurassiens et neuchâtelois d'athlétisme. C'est, on peut dire, le grand rendez-vous de la saison.
Exactement Yannick, un titre cantonal c'est toujours quelque chose dans la carrière d'un athlète. Ils seront près de 200, vous l'avez dit, en compétition au stade du littoral. Sprint, haies, demi-fond, poids, javelot, disque, marteau, hauteur, longueur, triple saut ou bien encore perche. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Le coup d'envoi des épreuves sera donné à 9h et puis les dernières courses se disputeront à 18h30. Une journée bien remplie donc pour l'athlétisme régional.
Et c'est l'occasion d'évoquer la santé de ce sport dans l'arc jurassien. Et on a le plaisir de vous accueillir. Xavier Niki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'ANA, l'Association Neuchâteloise d'Athlétisme. Alors, près de 200 athlètes, on l'a dit, sont rassemblés à Colombiers. C'est un chiffre qui revient d'année en année. Ces championnats jurassiens et neuchâtelois, c'est le rendez-vous phare de la saison pour vous ?
Pour nous, pas exactement, puisque cette année, on a organisé aussi le match des six cantons. Mais pour les Neuchâtelois, oui, bien sûr.
Il y a quand même une ambiance amicale ou alors c'est clairement une ambiance de compétition? Est-ce qu'on vient vraiment pour performer avant tout?
Oui, chacun vient avec ses ambitions personnelles. Mais l'état d'esprit est toujours bon enfant sur un terrain d'athlétisme.
Ces championnats jurassiens et neuchâtelois, c'est l'occasion d'évoquer l'état de santé, on l'a dit, de l'athlétisme dans l'arc jurassien. Noémie a justement voulu en savoir un peu plus et elle a lancé un coup de fil à Sébastien Gerber. Il est le président de l'AJIA, l'Association Jurassienne d'Athlétisme.
Les effectifs sont assez stables, les résultats sont toujours là. J'en veux pour preuve, par exemple, les scores jurassiens qui sont battus régulièrement chaque année. Ça montre aussi que le niveau augmente et puis qu'on a, malgré la petite région, on a quand même toujours chaque année des médaillés au championnat suisse, que ce soit dans les clés, que ce soit dans les concours simples ou chez les plus jeunes. Ça se passe bien. C'est vrai que je suis confiant, mais il faut rester vigilant. On souffre un petit peu de la diversité des sports qui sont proposés aux jeunes. Mais malgré tout, l'athlétisme, moi, je pense que oui, je suis confiant. Ça se passe bien. Ça se passe bien.
Donc, quand vous dites rester vigilant, c'est rester vigilant à quoi justement? Au nombre d'inscrits, au nombre de licenciés?
Voilà, exactement. Ce qu'on remarque, c'est que lors de nos championnats, les effectifs soit baissent un petit peu, soit sont stables. Parfois, ça augmente, principalement chez les jeunes. On voit surtout un effet de mode. Mais je dis vigilant parce que dans certains clubs, et même la majorité des clubs d'athlétisme, le club repose sur 2-3 personnes qui font souvent l'entraîneur, qui s'occupent des déplacements, qui s'occupent de récolter des inscriptions. Parfois, ils s'occupent même de s'occuper de la caisse et puis ils doivent payer un petit peu les inscriptions différents concours. Puis ces personnes s'occupent de tout. Puis si ces personnes devaient arrêter, parfois, le club risque de s'arrêter. Puis c'est là que je lance toujours un SOS. Dites, faites attention, déléguez, sollicitez plus les parents parce qu'on a besoin des parents. Par rapport à d'autres sports qui sont peut-être plus structurés ou qui ont besoin de moins de monde, hein. Si une des personnes arrête, ils sont vite remplacés. L'athlétisme, si une des personnes tiennent les rênes du club, qui soient entraîneurs et en même temps qui sont caissiers, qui organisent des placements, arrêtent, souvent, le club a du mal à se remettre.
Xavier Niki, votre homologue jurassien évoque beaucoup d'éléments. On va peut-être un peu les reprendre un par un. Tout d'abord, ouais. Les effectifs sont stables, dit Sébastien Gerber. C'est aussi un constat que vous dressez dans le canton de Neuchâtel?
Oui, ces dernières années, la participation au championnat cantonal est vraiment stable. On a peut-être perdu un peu de monde si on remonte plus longtemps en arrière, mais à court terme, oui, c'est stable.
Le niveau, quant à lui, a légèrement baissé, peut-être par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Mais pour vous, ce n'est pas forcément une inquiétude. On a aussi, il faut dire, connu des années exceptionnelles par le passé.
Voilà, c'est ça. on a eu des bonnes années avec la présence au championnat d'Europe de Valentin Arrieta ou Jonathan Puemi ou encore Julien Fiva qui a le record suisse en longueur. Donc ça, c'était vraiment des très bonnes années. Et là, on est un petit peu rentré dans le rang au niveau performance parce que la le Châtois est d'athlétisme d'un petit canton.
Mais on n'arrive plus à amener ces athlètes au plus haut niveau ?
Si, on a les moyens de les amener. Il faut cependant voir que on a moins de potentiel et voilà.
Sébastien Gerber dit aussi que l'athlétisme souffre de la diversité des sports proposés aux jeunes aujourd'hui. On n'arrive pas à draguer véritablement les jeunes pour les attirer vers ce sport, vers l'athlétisme.
Mais je pense pas que... En fait, si on fait ça, c'est d'autres sports qui vont baisser en nombre de licenciés. Et je pense pas qu'il y ait d'intérêt à se battre pour amener les gens vers notre sport, en fait. Simplement, les jeunes, ils doivent aller vers leurs amis, vers le sport qu'ils sentent pour eux. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à vouloir ramener chez nous des sportifs.
Alors, l'athlétisme, c'est clairement le sport le plus regardé lors des Jeux Olympiques d'été. Ça, est-ce que ça aide, lors des années olympiques, justement, à un peu booster les effectifs des clubs ? Est-ce que vous voyez une recrudescence des inscriptions dans ces années olympiques ?
Non, personnellement, je vois pas vraiment, en fait. Non, c'est pas... Il faut dire que même si c'est regardé, les jeunes ont une méconnaissance quand même assez grande de l'athlétisme suisse et même mondial, en fait.
Ça signifie qu'il manque peut-être une grande figure, un grand nom dans l'athlétisme suisse pour attirer ces jeunes, pour leur ouvrir un peu les yeux sur ce sport-là ?
Oui, bien sûr. Ça, c'est un Federer, il va drainer du monde. Les joueurs de football, cette année on a la Coupe du Monde, ça va drainer aussi des jeunes, ça va provoquer des ambitions. Et pour le moment, même si on a de bons athlètes, le tout haut niveau manque pour drainer vraiment les jeunes.
Et puis, un autre constat encore peut-être dressé par votre homologue jurassien, c'est le fait que beaucoup de clubs, la majorité des clubs même, reposent sur deux ou trois personnes. Alors, il appelle à plus déléguer, à solliciter aussi davantage les parents. Ça peut, selon vous, clairement être des solutions pour pérenniser l'athlétisme, pour ne pas voir des clubs disparaître ?
Ah oui, ça, bien sûr. Moi-même, je cumule les fonctions, puisque je suis aussi cette technique de l'ANA. Mais... C'est difficile d'avoir du monde qui s'occupe de l'athlétisme parce que ça demande beaucoup. Hein. Pour les championnats cantonaux, là, il nous faut une quarantaine de personnes. Et puis, l'investissement des parents est pas... Ils comprennent pas forcément le besoin qu'on a d'aide pour ce genre de manifestation.
Alors, on l'a dit, peu d'athlètes de l'arc jurassien parviennent finalement à s'illustrer au haut niveau, au niveau international, alors que l'athlétisme suisse vit une très belle période. Noémie a voulu tenter d'en savoir la raison auprès du président de l'AJA, Sébastien Gerber.
On a une base. On a relativement beaucoup de jeunes qui font de l'athlétisme. Et puis, peut-être comme vous le dites, on a là la pointe, on a peu d'athlètes qui percent. Bon, on a eu il y a quelques années Raphaël Monachon, on a actuellement Fabien Thumer, qui sont régulièrement appelés dans l'équipe suisse. On a Jonas Ringeli, qui est domicilié à Vic, à côté de Blémont, mais qui s'entraîne avec Zurich. Mais c'est vrai que notre région, je parle peut-être du Jura Bernois, souffre, je dirais, de l'éloignement de grands pôles universitaires ou d'autres écoles. Beaucoup de jeunes sortent du lycée ou souhaitent poursuivre leur formation ailleurs. Il n'y a pas d'école dans notre région. Ils partent et puis forcément, souvent, au détriment de leur sport. Que ce soit le foot, que ce soit le hockey, que ce soit l'athlétisme. On souffre parfois parfois du manque de personnes de ces 17 ans ou 18 ans qui malheureusement doivent quitter la région pour soit chercher du travail, soit poursuivre leur formation.
Et pourtant, Macolin n'est pas si loin que ça. Puis là aussi, il y a des gens qui poursuivent des formations justement en lien avec le sport, puis aussi des gens qui s'entraînent.
Il y a quand même peu de personnes qui font leurs études à Macolin. Moi, je dis toujours ceux qui vont faire leurs études à Neuchâtel, Lausanne, Fribourg, Genève. Par exemple, dans mon club, là, la moitié des 18 ans et plus ne s'entraînent dans mon club que vendredi soir et samedi. Alors voilà, c'est bien que ce n'est pas des conditions idéales d'entraînement.
Sébastien Gerber, je rappelle que vous êtes le président de l'Association jurassienne d'athlétisme. Selon vous, quel est l'avenir de l'athlétisme dans la région ?
Je suis confiant. L'athlétisme reste un sport noble. Je crois que c'est dans n'importe quel sport, on saute, on court, on lance. On aura de toute façon des creux, mais l'athlétisme, en tant que sport noble, on le voit partout, il ne disparaîtra jamais.
Xavier Niki, on entend Sébastien Gerber qui regrette finalement un peu qu'il n'y ait pas de haute école, d'université dans le Jura bernois. Neuchâtel, justement, possède une université. Est-ce que c'est plus facile, du coup, de garder les jeunes à la sortie du lycée dans votre sport sur Neuchâtel ?
Non, parce que nous, moi, je pense qu'on les perd déjà dans les années lycée, au fait, les jeunes chez nous à Neuchâtel, et pas après lycée.
Mais pour quelle raison, du coup ?
Aussi les études déjà, peut-être l'envie de changer, parce que quand vous arrivez à Saja et que vous avez commencé à 8-10 ans, ben, ça fait déjà 8 ans que vous faites de l'athlétisme. Voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais ça peut être deux éléments de réponse.
Oui, effectivement. Xavier Niquil, président de l'association neuchâteloise d'athlétisme. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions en direct dans Cap Sport. Les championnats jurassiens et neuchâtelois simples, c'est donc ce samedi du côté de Colombier. Belle compétition à vous.
Merci.
Cap Sport.
Et oui, une musique bien connue des amoureux du ballon rond. Elle va résonner ce samedi à Kiev. C'est en Ukraine que va se jouer la finale de la Ligue des Champions. Une opposition entre le Real Madrid et Liverpool. Coup d'envoi 20h45. On va décrypter ce duel avec vous, Gérard Castella, responsable de la formation Young Boys. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Real Madrid, Liverpool, c'est l'affiche. Première question, est-ce qu'il y a pour vous un favori dans cette rencontre ?
Moi, je pense pas, parce qu'une finale, il faut la jouer pour la gagner. Et je pense que chaque équipe a les mêmes ambitions. Je pense qu'avec des qualités différentes, ils sont assez proches l'une de l'autre, ces équipes. La forme du jour va être très importante, à mon avis. Mais je pense pas qu'on peut désigner un favori dans un tel match.
Le Real Madrid, le club espagnol qui va jouer sa 16e finale, c'est hallucinant, c'est un record aussi. Cette expérience-là, elle peut avoir son importance dans une finale ?
Oui, je dirais surtout pour les joueurs, parce que, ok, ils ont fait 15 finales, ils en ont gagné 12, mais surtout, ils ont gagné les deux dernières de suite, et ça, c'est quand même une expérience de l'événement qu'il ne faut pas négliger contre une équipe de Liverpool, qui a depuis 2005 à 2007, contre l'AC Milan, qui a perdu 2-1 à l'époque, n'a plus joué de finale de Champions League. Il y a certainement plus de joueurs dans cette équipe qui a joué cette finale-là. Donc, vraiment, je pense que l'avantage de l'expérience est pour le Real Madrid au départ du match. Mais enfin, le Liverpool a d'autres qualités pour embêter le Real Madrid demain soir.
Vous l'évoquez, effectivement, ce sera la 3e finale consécutive du Real Madrid. Il peut d'ailleurs devenir le tout premier club à gagner 3 fois de suite la Ligue des Champions dans sa nouvelle forme. À l'inverse, est-ce que cette pression de l'histoire, en quelque sorte, ça peut paralyser le groupe madrilène ?
Non, je ne pense pas que ça peut les paralyser, parce que c'est quand même tous des joueurs de très 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 haut niveau, qui ont l'habitude de jouer de tel match. C'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont l'habitude de grands matchs, l'habitude d'avoir un immense public qui les suivent. Donc c'est pas ça qui va les paralyser. Il y aura des émotions certainement qu'il faudra bien maîtriser, mais je pense que ça sera un match très très ouvert.
Et puis vous évoquiez aussi un Liverpool qui n'a plus atteint la finale depuis 2007. C'est un handicap au niveau du manque d'expérience à ce niveau de la compétition. Mais est-ce qu'au contraire, ça ne pourrait pas également un peu décupler la motivation des joueurs ? L'exploit est encore plus grand que finalement les joueurs madrilènes qui sont peut-être un peu plus habitués à jouer à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai que Real Madrid est habitué de jouer des finales, hein, parce qu'ils viennent de jouer deux, ce sera la troisième de suite, avec quasiment le même effectif. On voit qu'il y a très très peu de changements dans l'effectif du Real Madrid. Certainement que le fait de jouer cette finale, ça va donner de la force supplémentaire aux joueurs du Liverpool. Ils veulent marquer l'histoire. Alors, Liverpool avait gagné, on se rappelle, en 2005 contre l'AC Milan après un match mémorable. Depuis cette époque-là, il n'y a plus de victoire de Liverpool. Il y a eu une petite finale qui a été perdue deux ans plus tard, mais depuis, ils ont rarement été très très loin en Champions League, voire même pas de participation du tout. Certainement que la motivation, elle sera énorme chez les joueurs de Liverpool de marquer l'histoire du club, de marquer l'histoire de cette équipe de Liverpool.
Alors, Real Madrid-Liverpool, c'est du déjà-vu au niveau d'une affiche de finale de Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 1981, et c'était d'ailleurs la dernière finale perdue par la formation espagnole. Est-ce que 37 ans plus tard, ce duel peut encore avoir une résonance? Est-ce que ça peut encore jouer dans le coin des têtes des joueurs?
Non, dans la tête des joueurs, en tout cas pas, parce qu'il y en a qui n'étaient même pas nés en 1981.
Je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient nés.
Ouais. Voilà, exactement. Donc, je pense que ça n'a aucune importance, cette anecdote-là. C'est clair que les joueurs, ils vont jouer leur match, et c'est des joueurs de l'ère moderne. Donc, ils vont pas penser à ce qui s'est passé il y a autant d'années en arrière, 37 ans en arrière, pour eux, ça ne veut rien dire du tout. Ils vont jouer le match à fond, leur match à eux, à fond, de 2018. Et c'est tout, certainement.
Et puis, on peut parler d'une finale un peu particulière dans le sens où elle va opposer le troisième du championnat d'Espagne au quatrième du championnat d'Angleterre. Est-ce qu'il faut conclure qu'aujourd'hui, on doit finalement sacrifier certaines compétitions pour arriver à s'offrir une finale, une Ligue des Champions?
Moi, je pense pas que le Real Madrid a calculé comme ça, ni le Liverpool du reste. Je pense qu'ils ils prennent les compétitions pour les gagner. Ils commencent le championnat d'Espagne ou le championnat d'Angleterre pour finir champion d'Angleterre ou champion d'Espagne. C'est l'histoire du championnat qui a fait qu'à un moment donné, le Real Madrid a eu un mauvais passage. Ça n'avait rien à voir avec la Champions League, parce que, ou bien pour Liverpool, c'est la même chose. C'est les circonstances du championnat, c'est les passages à vie qu'ils ont connus durant ce championnat qui a été fatal pour chaque équipe. Et naturellement, ils ont été en forme au bon moment. Je pense que surtout depuis les quarts de finale, demi-finale, ils ont été des équipes qui ont dominé leur adversaire, qui ont réussi à sortir d'abord de la poule, puis ensuite des pièges des matchs à élimination directe. Et c'est clair qu'ils ont été en forme au bon moment, mais c'est pas ça, ils n'ont pas sacrifié, à mon avis, le championnat au détriment de la Champions League. C'est pas le style de la maison, autant à Madrid qu'à Liverpool.
Gérard Castella, on va peut-être se pencher un peu sur deux duels, deux matchs dans le match, comme on les appelle. Tout d'abord, il y a celui des entraîneurs, Zidane face à Klopp. Est-ce qu'il y en a un qui a l'avantage sur l'autre?
Ben, l'avantage, c'est que Zidane, il a fait deux fois la finale, deux fois il l'a gagné. Klopp, il a dû la faire une ou deux fois, il a perdu. Donc, je dirais, au niveau de la conscience de la compétition, on va dire un petit avantage à Zidane, qui arrive, lui, à transmettre son calme, sa sérénité, son vécu de joueur, son vécu de gagneur également. Et puis, Jürgen Klopp, qui est un impulsif, qui donne beaucoup d'énergie à son équipe depuis le banc de la touche, qui a certainement une grosse envie de gagner également. Mais je pense qu'au niveau du coaching, c'est deux grands entraîneurs, deux entraîneurs capables de changer aussi l'organisation de leur équipe, et deux entraîneurs qui sont capables d'influencer sur le résultat de leur équipe. Maintenant, ils ont l'avant-match pour préparer leur équipe, là, 15 minutes à la mi-temps. Et voilà, et je pense qu'ils font confiance à leur joueur. Je pense qu'il n'y a pas un entraîneur entre les deux qui a l'avantage sur l'autre. On va dire que là, c'est peut-être l'inspiration du moment sur le match qui peut faire la différence, autant chez Jürgen Klopp que chez Zidane.
Vous l'avez dit, Zinedine Zidane qui vient de gagner les deux dernières Ligues des Champions. D'ailleurs, en 28 mois, il a glané 8 trophées. C'est assez hallucinant à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait concrètement sa force?
Sa force, d'abord, sa carrière de joueur. Il a tout vécu en tant que joueur professionnel. Je pense qu'il s'est construit petit à petit. Il n'a pas brûlé les étapes. Il a d'abord regardé, il a d'abord étudié. Il a passé ses diplômes. Il a pris les jeunes du Real Madrid. Il a pris la réserve du Real Madrid, il a été l'adjoint d'Ancelotti. Il s'est construit petit à petit, puis naturellement, que je pense que l'avantage qu'il a sur beaucoup d'autres, c'est qu'il a du vécu. Il a du vécu en tant que joueur, il a vécu en tant que gagneur, mais aussi je pense qu'il transmet ce qu'il a vécu lui comme joueur à ses joueurs, ça veut dire de la confiance, de la sérénité. Et puis, là, les bons mots pour les joueurs importants de l'équipe. Il sait que, il sait gérer Cristiano Ronaldo, il sait gérer les stars, parce que lui-même était une star de l'équipe de foot.
Et puis en face, rapidement, il y a Jürgen Klopp, qui a connu également déjà une finale de Ligue des Champions avec Dortmund, ouais. C'était en 2013, mm-hmm. défaite face au Bayern de Munich 2-1. Est-ce que ça aussi, c'est une expérience qui peut, qui doit lui servir?
Certainement, ça va lui servir, parce qu'il a perdu cette finale, donc il peut pas, peut-être il a tiré des leçons de la préparation de cette équipe de la finale contre le Bayern. Mais bon, c'est un autre style d'entraîneur que Zidane, il est très démonstratif au bord de la touche, il donne de l'énergie à son équipe, il est très très porté pour mettre le feu à son équipe. Donc c'est pas le même style de management que Zidane, il n'a pas non plus la même carrière de joueur que Zidane, mais il a prouvé à Dortmund et maintenant à Liverpool qu'il est capable de donner un style à son équipe, un style spectaculaire. Il privilégie quand même la phase offensive en donnant beaucoup de liberté aux attaquants, en ayant beaucoup de verticalité dans son jeu, et puis surtout il fait jouer son équipe sur les transitions défense-attaque extrêmement rapidement. Il peut aller vite dans le but adverse avec un trio d'attaque comme avec Mané, avec Firmino et puis Mohamed Salah. C'est très très explosif vers l'avant.
Vous l'évoquez effectivement, Mohamed Salah, c'est le deuxième match dans le match. Mohamed Salah face à Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs qui détiennent certainement les clés de cette finale. Mohamed Salah, il est passé en Suisse de 2012 à 2014 au FC Bâle. À ce moment-là, est-ce qu'en le voyant jouer, vous vous êtes dit un jour, ce bonhomme-là, il pourrait mener son équipe en finale de Ligue des Champions, il pourrait véritablement exploser comme on le voit cette année?
Ben, je me rappelle très bien de cette époque du FC Bâle. On voyait très bien qu'il avait d'immenses qualités, qu'il était extrêmement explosif, qu'il était très très rapide. Il avait un super pied gauche, mais il n'avait pas été très très heureux devant le but. Je me rappelle pas d'avoir vu marquer énormément de buts. Il était très très jeune à l'époque. Mais je pense que son passage d'abord à Chelsea qui était difficile, mais surtout à la Rome, où là il a montré tout son potentiel. Il a pris de l'expérience, il a pris des matchs de Champions League, il a vécu le championnat d'Angleterre, le championnat d'Italie. Je pense qu'il s'est aussi développé en tant que personne et naturellement en tant que joueur, qui fait qu'aujourd'hui il arrive dans l'âge avec la maturité pour pouvoir exprimer toutes ses grandes qualités. Franchement, ce qu'il fait actuellement, ce qu'il a fait en Angleterre cette saison, c'est assez remarquable. Et puis il a marqué 10 buts en Champions League également. Donc Cristiano Ronaldo il a mis une quinzaine, je crois. Mais Mohamed Salah, il est pas très loin de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître.
Mais quand même, en face, il y a Cristiano Ronaldo. C'est la régularité à l'état pur. Vous l'avez dit, une quinzaine de buts. C'est la septième fois qu'il devrait terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il pourrait remporter une troisième Ligue des Champions consécutive. C'est quand même un joueur qui est en train de marquer le football de son empreinte.
Oui, ça fait un petit moment qu'il le marque.
Oui, mais là, ce sont des chiffres quand même. On atteint pratiquement des records inégalés, voire inégalables.
Ouais, vous avez raison, c'est exceptionnel, parce que Ronaldo, il a tout gagné dans sa carrière, à part d'être champion du monde. Mais c'est pas facile d'être champion du monde avec le Portugal. Il était champion d'Europe, c'est déjà pas mal. Mais pour moi, ce qui m'étonne pas, mais surtout qui me fait plaisir, c'est que c'est des gars qui ont tout gagné, et qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, ils sont multimillionnaires, mais il a toujours cette faim, cette envie de gagner les matchs, cette envie d'être un compétiteur hors pair. Et ça me plaît beaucoup, ce genre de joueur-là. C'est vraiment des grands champions, on va dire, parce que ils sont toujours affamés de victoires, affamés de marquer des buts et de porter leur club vers l'avant. Et ça, c'est remarquable. Et puis, on dit que c'est un monstre de travail. Et ça, je le crois bien, parce que pour maintenir le niveau qu'il a depuis tant d'années, aujourd'hui, Ronaldo, il a 33 ans, il est né en 1985. Il aurait pu se reposer un petit peu sur ses lauriers de temps en temps. Mais chaque saison, il est là, il est présent. Et puis, il est soit le meilleur buteur du championnat d'Espagne, soit le meilleur buteur de la Champions League, ou avoir des fois les deux. C'est vraiment remarquable, son parcours.
Gérard Castella, très rapidement, est-ce que cette finale, c'est aussi déjà la finale du Ballon d'Or? Celui qui gagne verra son meilleur attaquant être sacré Ballon d'Or?
Ouais, en tout cas, ils seront dans les trois premiers, les deux, hein, ça c'est certain, avec encore Lionel Messi. Je pense qu'ils vont se disputer le Ballon d'Or.
Et après, ça se jouera à la Coupe du Monde. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir.
Voilà, hein. C'est ça, exactement. Il y a encore la Coupe du Monde derrière. Donc, voilà, on verra bien. Mais le trio, il est là. Hein. Je pense que...
Oui, ouais, je crois qu'on vous rejoint effectivement sur cette analyse-là.
On ne va pas beaucoup se tromper en disant que les trois, ils sont dans les trois nominés pour être le Ballon d'Or. Mais dans le fond, ce Ballon d'Or, ce n'est pas ça qui me plaît le plus. Pour moi, c'est l'esprit collectif d'un joueur, comment il s'intègre dans le collectif. C'est des grandes individualités, mais qui arrivent à se mettre très vite de l'équipe. Et ça me plaît beaucoup mieux que d'être Ballon d'Or.
On va conclure sur ces paroles, oui.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été en direct dans Cap Sport. On rappelle que vous êtes le responsable de la formation aux Young Boys. Belle finale à vous.
Merci beaucoup. Bonjour, bonne soirée.
Et merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Cap Sport. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous retrouvez toutes les précédentes émissions sur notre site internet. Très beau week-end.
Cap Sport.